Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise. Le Talk Franchise,
le magazine audio de l'officiel de la franchise.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode d'été de notre Talk Franchise. Je suis Fabienne Brocaret, rédactrice en chef de l'officiel de la franchise. J'ai le plaisir d'être accompagnée des journalistes de la rédaction. Bonjour Maureen.
Bonjour Fabienne.
Bonjour Nathan.
Bonjour.
Bonjour Valentine.
Bonjour Fabienne.
Nous allons commencer ce talk par les actualités marquantes de ces derniers jours, puis dans une deuxième partie, nous verrons les temps forts de notre magazine de juillet-août, qui est actuellement en kiosque. Et enfin, nous vous présenterons deux enseignes très en vue en ce moment. C'est parti.
Le talk franchise.
S'il y a un secteur en crise cette année, c'est bien celui de l'immobilier, avec des chiffres en baisse côté vente et des fermetures d'agences qui se multiplient. Nathan, tu as assisté à la dernière conférence de presse de Century 21. Le réseau a dévoilé son bilan, mais aussi décrypté le marché immobilier de l'ancien lors de ce premier semestre 2023. Alors qu'en est-il vraiment ?
Effectivement Fabienne, depuis toujours, le marché immobilier de l'ancien s'autorégule naturellement entre le taux de crédit, les prix et les surfaces. Cependant, la donne a changé, comme l'explique Charles Marinakis, président de Century 21 France.
Là, on est dans une période, vous savez, un peu compliquée par l'augmentation des taux de crédit qui ont désolvabilisé une partie des acquéreurs. Du coup, on se retrouve avec un volume de transactions qui a baissé de 15%, des prix qui s'ajustent vraiment à la marge, hein, très lentement, d'une région à l'autre. Et puis, du coup, les Français qui se sont adaptés en régulant, en adaptant leurs achats et en diminuant les surfaces pour arriver à rentrer dans leur budget de financement.
Avec aujourd'hui 960 agences, la branche française de Century 21 va atteindre la barre des 1000 établissements d'ici la fin de l'année. En effet, elle est même à la lutte pour faire partie des plus gros réseaux de l'enseigne au niveau mondial.
En fait, historiquement, la Chine, enfin, depuis que Century 21 s'est implanté en Chine, la Chine est devenue très leader en nombre de points de vente, suivi des États-Unis, qui est quand même le berceau de la marque et de cette franchise-là. Et après, c'est vrai qu'on est un peu... On frictionne un peu avec les Japonais pour arriver à la barre des 1000 agences. Et je crois qu'ils nous ont devancés, ils ont déjà passé la barre des 1000 agences. Donc on est en compétition avec les Japonais pour être le troisième réseau au monde.
Pour la marque, l'été s'annonce sportif et pour cause, cette dernière est partenaire du Tour de France ainsi que de la Coupe du Monde du rugby qui aura lieu en France et qui débutera le 8 septembre prochain.
Les semaines à venir s'annoncent aussi sportives pour les membres du secrétariat au commerce dont tu vas nous parler, Valentine, pour nous expliquer concrètement à quoi il va servir et quels sont ses chantiers à venir.
Oui Fabienne, c'est suite aux assises du commerce l'an dernier que ce secrétariat au commerce a vu le jour, le 25 avril plus précisément, et est aujourd'hui piloté par Thierry Mandon sous le patronage de la ministre Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Une demande qui a d'ailleurs été instruite par la direction générale des entreprises, qui a une vocation interministérielle, hein, en d'autres termes c'est faire le relais des échanges et des priorités avec les différents ministères. Et le but de ce secrétariat, alors vous me demanderez, eh bien, c'est structurer un dialogue efficace avec tous les acteurs du commerce, dont les réseaux de franchise, et surtout parler des grands enjeux du commerce de demain. Et ça commence par mettre en place des groupes de travail, comme nous l'a expliqué Marie de Boissieu, chef de la sous-direction du commerce, de l'artisanat, de la restauration à la DGE, qui m'a reçu il y a quelques jours au siège à Paris.
On a lancé dès le mois de mai 4 groupes de travail spécifiques pour y répondre. Donc il y a un premier groupe de travail qui va être dédié à tous les enjeux de décarbonation des bâtiments, parce que ça c'était une remontée qu'on avait des commerces franchisés ou autres, c'était toute l'inquiétude quant au décret tertiaire et à son déploiement et à sa bonne application. Donc là c'était une des priorités, c'est tout ce qui est le décret tertiaire, et la seconde priorité de ce groupe de travail-là, c'est les obligations de la loi climat et résilience, puis de la loi énergie renouvelable, sur les obligations d'installation des panneaux photovoltaïques.
Deuxième groupe de travail, les enjeux des territoires par rapport à l'organisation des JO, comme le précise toujours Marie de Boissieu, mais aussi des groupes de travail liés à la fiscalité et au numérique.
Les priorités des acteurs, quels qu'ils soient, de la franchise ou autre, dans ce groupe de travail-là, c'était des inquiétudes face aux modalités d'organisation des Jeux Olympiques, c'est-à-dire notamment tout ce qui était les aspects logistiques, l'accès aux magasins, l'ouverture, qui vont être engendrés par l'organisation des Jeux Olympiques. Il y avait des sujets et des inquiétudes des acteurs aussi sur la mise en place des ZFE. Donc ça aussi, ce groupe de travail-là va y répondre. Et puis, on a eu aussi des remontées, des questions sur les commerces ruraux.
Enfin, deux autres groupes de travail pour la simplification des démarches administratives, la fiscalité donc, et la compétence et l'emploi.
Il y a des enjeux de simplification des démarches administratives. Et là, je pense notamment à tous les sujets liés aux baux commerciaux. Et le troisième sujet auquel va s'attaquer ce groupe de travail-là sur la simplification et la compétitivité, c'est toute la réglementation qui encadre le numérique, et notamment la transposition française du DSA et du DMA. Donc ça, c'était les priorités liées à la simplification des commerces. Et puis enfin, le quatrième groupe de travail qui a été lancé, lui a trait aux compétences, à l'emploi. Donc là, les priorités remontées par les acteurs, c'est surtout de renforcer l'attractivité des métiers du commerce. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore de solution, on est en train d'amorcer la réflexion. Et puis à court terme, il y a des échéances comme la réforme du lycée professionnel, dans laquelle les acteurs du CNC vont se positionner, puisqu'ils vont échanger avec la DGESCO et avec le ministère de l'Éducation nationale pour essayer que les problématiques liées aux formations et aux cursus des métiers du commerce soient bien prises en compte dans cette réforme des lycées professionnels.
Un vaste chantier donc pour les acteurs de la filière, tout en sachant qu'à date, pour te partager un chiffre, Fabienne, plus de 21 000 communes n'ont pas de commerce en France aujourd'hui.
Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
Dans cette deuxième partie de notre talk, nous allons vous présenter les gros sujets abordés dans notre magazine de juillet et août, actuellement au kiosque. Et ça commence par un petit tour de France, des zones à faible densité dont le pari est justement d'attirer les commerces de proximité pour redonner vie au centre-ville. Ces territoires, ruraux notamment, représentent de belles opportunités pour les entrepreneurs en herbe afin de se lancer à moindre frais. Mais pour se lancer, il y a souvent un passage obligé, celui du rendez-vous à la banque. Vous trouverez dans notre article En pratique tous les conseils pour le réussir et convaincre votre banquier de vous financer. L'été est aussi une période marquée par la sécheresse, ce qui nous a amené à nous demander comment les réseaux de lavage automatique s'adaptent à cette nouvelle donne et se réinventent pour économiser cette ressource et continuer à faire le plein. Mais l'été, on a aussi envie de s'amuser. Valentine, tu as donc enquêté sur le secteur des loisirs. Est-ce que c'est un marché où il fait bon investir ?
Oui, Fabienne, il fait bon d'investir sur le marché des loisirs en franchise, comme sous licence de marque en France, en indoor et en outdoor. Nous avons d'ailleurs posé la question à Pierre Fleury, fondateur du cabinet de géomarketing PF Marketing, au regard de ces 20 dernières années dans notre enquête de juillet. Et voici son constat et ses perspectives d'avenir, par exemple le bowling et le mini-golf, qui sont aujourd'hui rattrapés par les jeux d'aventure, les escape games ou encore les salles de réalité augmentée, aussi futuristes soit-elles. Tant du côté de l'offre, tant du côté des candidats, parce que la demande des publics augmente. Écoutons-le.
On a des activités aujourd'hui qui utilisent des nouvelles technologies, beaucoup. Donc nous, on a beaucoup de clients dans la réalité virtuelle. Donc là, on est un cran au-dessus en termes de maturité. Ce sont souvent des centres qui atteignent des tailles assez importantes. Le point commun aussi, là aussi, ce qui est très intéressant, c'est que c'est des surfaces, encore une fois, relativement petite par rapport aux grands multiplex qu'on a pu connaître il y a quelques années de loisirs, et qui donc facilite l'implantation de ces activités-là dans les centres-villes et facilite également la création, parce qu'un centre de réalité virtuelle ou un centre de quiz, c'est beaucoup moins cher à monter pour un potentiel franchisé que on imagine un grand bowling ou un laser game, des choses qui sont beaucoup plus coûteux et en foncier, parce qu'il faut trouver les locaux, et en équipement.
C'est sans compter les centres d'escalade ou les drone parks. En bref, il y en a pour tous les goûts, tant du côté des investisseurs que pour les publics, au vu de cette diversification de l'offre. Sans compter que le marché européen du loisir indoor est aujourd'hui estimé à 2,3 milliards d'euros, et entre 7 et 9 milliards si l'on inclut tous les autres loisirs commerciaux, parcs d'attractions, cinéma, parcs extérieurs, etc. pour l'INSEE.
Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
Pour terminer ce Talk Franchise d'été, on va s'intéresser à deux enseignes très en vue. Maureen, tu nous emmènes tout d'abord à l'inauguration du restaurant Lupo en plein cœur de Paris.
Et oui, c'est dans une chic zone de bureaux du 8e arrondissement de Paris que Lupo, nouvel acteur du snacking venu du Sud, a récemment ouvert ses portes. Et ce, dans un quartier particulièrement concurrentiel pour le jeune réseau lancé en 2020. Quand on sait que la rue Washington compte déjà un Pokawa, un Jour et un Bagel Corner parmi d'autres spécialistes de la restauration du midi.
Le produit, personne ne le fait, donc c'est très simple. Même en France, on est très peu à avoir misé sur le panneau de zoo. On est la seule franchise française aujourd'hui sur le marché français à être autour du panneau de zoo et également le Lupo de zoo, hein, qui est une création que de chez nous. Donc je pense que notre singularité, c'est ce qui fait aujourd'hui notre force et c'est pour ça qu'on est à notre place dans ce quartier, quoi.
plus aguerris sur un service pizzeria classique que le créneau 100% fast-food, cette ouverture permettra au réseau de tester l'efficacité d'un nouveau four dédié à ses besoins précis et qui, selon les résultats, sera ensuite déployé sur le reste du réseau en France.
Nous, à Pau, c'était vraiment un côté pizza, donc on avait pizzeria et street food. Et là, ici à Paris, on est vraiment que street food. Donc il a fallu qu'on ait des outils pour nous permettre d'être très réactifs sur les menus du midi, tout en ayant des outils qui nous permettent justement de garder cette qualité de pâte à pizza, ce croquant et en même temps ce moelleux qu'on recherche dans une pâte à pizza, mais sous une version restauration rapide. Donc voilà, être très réactif et rapide. Et surtout, c'est un outil qui nous permet d'avoir différents styles de cuisson. Donc on a juste appuyé sur un bouton. Et en fait, suivant la recette, ça nous cuit parfaitement le produit. Donc c'est une très bonne chose.
Maureen, tu as réussi à nous mettre en appétit en musique. Il est désormais temps de se désaltérer. Et l'été, la bière a le vent en poupe, alors à consommer avec modération, bien sûr. On te suit donc à la rencontre de l'enseigne Les Trois Brasseurs, qui mise désormais sur les canettes plutôt que sur les traditionnelles bouteilles.
En effet, les experts de la microbrasserie en France accélèrent leur expansion en développant leur activité sur le marché de la vente à emporter. Trois Brasseurs se lancent désormais dans la production en canette, le contenant à la fois le plus respectueux pour la préservation du produit, mais aussi plus vertueux pour l'environnement, annonce Jean-Baptiste Béraudier, le directeur du Pôle Bière.
Les avantages de la canette, même si effectivement, surtout en France, il y a une image de la canette qui n'est pas très très bonne, mais qui est en train d'assez largement évoluer. La canette, c'est déjà le meilleur contenant par rapport à la conservation du produit, en l'occurrence de la bière. C'est un produit qui est totalement opaque, un contenant qui est totalement opaque, donc la lumière ne peut pas arriver à l'intérieur du contenant. Qui dit lumière dit UV, donc ça n'altère pas, les UV potentiellement altèrent la bière, donc ça n'altère pas. Ça, c'est la partie opacité, il y a aussi la partie hermétique. La canette est totalement hermétique, donc l'air ambiant ne peut pas rentrer à l'intérieur du contenant. Une bouteille, potentiellement, avec le bouchon, c'est possible. Sachant qu'au niveau de l'altération de la bière, on a parlé des UV, mais il y a aussi l'oxygène. Donc le fait qu'elle soit totalement hermétique, l'oxygène ne peut pas rentrer en contact avec la bière. Donc encore une fois, au niveau conservation, c'est ce qu'il y a de meilleur. Autre avantage, la canette est extrêmement légère. Une canette fait moins de 15 grammes, une canette vide, quand une bouteille de la même contenance, donc pour nous 33 centilitres, fait 220 grammes. Donc forcément, c'est, en termes de transport, c'est du poids, beaucoup moins de poids, donc beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'essence, beaucoup moins d'impact carbone. Donc vraiment, c'est un produit à ce niveau-là qui est vraiment très très intéressant. Dans le même domaine, il y a le côté recyclage. La canette, aujourd'hui, a une recyclabilité extrêmement importante. Elle est 100% recyclable. On peut recycler à 100% une canette, ce qui n'est pas du tout le cas de la bouteille. Même si en France, le niveau de recyclage aujourd'hui n'est pas hyper développé, c'est en train de progresser. Mais en tout cas, le produit en tant que tel est 100% recyclable.
Ces bières sont disponibles à la vente à emporter depuis le 4 juillet sur le nouveau lieu de l'enseigne situé dans l'ancienne brasserie de Cronenbourg à Strasbourg. Trois Brasseurs y a lancé son nouveau concept, le Lab, un lieu d'expérience brassicole dans laquelle la gamme de bières est encore plus développée que dans les autres Trois Brasseurs classiques.
Le Talk Franchise.
Merci Maureen, à découvrir donc pendant vos vacances cet été. Et n'oubliez pas aussi de passer par le kiosque pour retrouver le magazine L'Officiel de la Franchise de juillet et août. Et aussi à aller bien évidemment sur le site internet de l'officiel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming et on vous souhaite un très bel été. À bientôt.
Le Talk Franchise.
Le magazine audio de l'Officiel de la Franchise.